Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. L'itinéraire et bel âge. Au programme, Bruno Marchand parle d'itinérance. Et comment déjouer la rédiflation. Bonne écoute!
Bruno Marchand parle d'itinérance, un texte de Iseut Picard, paru dans le magazine L'Itinéraire le 15 avril 2023. Maire de Québec depuis un peu plus d'un an, Bruno Marchand présidera le sommet sur l'itinérance de l'Union des municipalités du Québec, qui se tiendra cet automne. En pleine campagne électorale pour la mairie de Québec, il n'a pas hésité à se prononcer sur la question, chose que peu de maires ont fait avant lui. À l'aube de sa visite en Finlande, au Danemark et en Suède, en compagnie des maires de Granby et de Laval, il a fait un arrêt à l'itinéraire pour nous parler de ses objectifs. En 2018, la Ville de Québec a recensé 545 personnes itinérantes dans la capitale. On connaîtra cette année l'impact de la pandémie et de la hausse des prix des loyers sur l'itinérance. Pourquoi avez-vous pris position officiellement sur l'itinérance? J'ai réalisé que ma vie avait du sens quand je travaillais à Centraide en prévention du suicide. J'ai fait une bonne partie de ma vie professionnelle dans le communautaire et le monde de l'éducation où j'étais travailleur de corridor. J'intervenais auprès des élèves les plus vulnérables. J'en suis sortie avec une certitude. Certains enjeux sociaux ne sont pas des fatalités. L'itinérance n'est pas une fatalité. Concernant les politiques publiques, en quoi c'est bon de se familiariser avec ce qui se fait ailleurs? C'est intéressant d'apprendre des autres pays. Si on voit qu'on a pu faire des choses ailleurs, on l'adaptera à nos villes. Les gens critiquent en disant « Nous ne sommes pas Paris, nous ne sommes pas la Finlande ». Bien sûr qu'à Helsinki, en Finlande, ce n'est pas les mêmes règles, pas les mêmes pouvoirs, pas les mêmes habitudes. Mais ils sont quand même partis de 3665 lits d'urgence dans les refuges dans les années 1970 pour les placer en logement, à 170 lits d'urgence en 2011. Pour moi, ça montre que c'est possible de prendre soin du monde. Voir ce qui se fait ailleurs, ça permet d'accélérer certains processus, comme celui de l'aménagement des rues autour des écoles. Je crois qu'il y a plus de 250 rues à Paris qui ont été aménagées de façon à améliorer la sécurité, soit en empêchant la circulation, soit en créant des aires de jeu, soit en verdissant. Et c'est ce qui va se faire ici. Donc, leur exemple aura servi. Et puis, ici aussi, il y en a des histoires à succès. L'organisme Porte-Clés à Québec a sorti des dizaines de personnes de la rue en créant des ponts avec le logement, la santé mentale, le travail, l'engagement social. Chez nous aussi, il y a de bons exemples dont on peut s'inspirer. En janvier dernier, je me suis rendue à Vancouver. C'est catastrophique ce qu'ils vivent là-bas dans le quartier Downtown Eastside. C'est devenu hors de contrôle. Je trouve ça facile pour les politiciens d'attendre que le problème s'amplifie, qu'il y ait une plus grande exposition médiatique, parce que ça donne la légitimité pour intervenir. Lorsqu'il y a une crise, c'est facile de débloquer des budgets, parce qu'il faut agir avec force. Moi, je n'y crois pas. parce que le jour où on sera rendu là, on va pénaliser tout le monde, on aura attendu trop longtemps. Plus de gens sans abri, c'est plus de gens dans le besoin. Downtown Eastside est l'un des quartiers les plus pauvres au Canada, aux prises avec un grave problème d'itinérance et de consommation d'opioïdes. Vous avez vécu une situation difficile à Québec avec la fermeture de l'organisme local? Oui, parce que les groupes communautaires ont trouvé ça dur. Ça a été une décision du CIUS, pas de la ville. Finalement, la ville a décidé de louer le sous-sol de l'église Saint-Roch, reconnue comme un pilier dans la vie communautaire du quartier, pour en faire un futur lieu d'accueil pour ces personnes, mais qui hébergera aussi d'autres organismes. En attendant, on a d'autres endroits, dont la cheminée nocturne qui a emménagé à l'intérieur du café Rencontre. On peut dire que, toute proportion gardée, la situation de l'itinérance à Québec est similaire à celle de Montréal. Une situation qui amène plusieurs à tolérer qu'il y ait des personnes dans la rue. Parce que les citoyens sont entre deux eaux, beaucoup d'intolérants, mais aussi beaucoup de gens qui tolèrent la situation, mais qui sont malheureux parce qu'ils voient les conséquences. Ils ont peur pour leurs enfants, par exemple. Une fois que la peur s'installe, ça devient super dur de traiter les problèmes sociaux avec des réactions extrêmes. C'est mieux d'agir en amont, avec respect, avec humanité, avec la lenteur que ça prend pour régler des enjeux sociaux de ce type et qui rendent la cohabitation difficile dans les quartiers. Que peuvent faire les municipalités et les quartiers face à l'augmentation du nombre de personnes itinérantes? Les villes n'ont ni rôle ni responsabilité légale de s'occuper de l'itinérance. Elles ne reçoivent aucun financement. On peut le voir dans le dernier dépôt du budget. Difficile pour le quartier de se prendre en main. Le quartier est à la merci de plus grands que lui. Ce qu'il faut pour s'assurer de traiter le problème en amont, c'est un filet social avec des groupes communautaires qui sont en mesure d'aider le monde. Regardez les villes dans le monde qui réussissent. L'exemple de Vienne est très intéressant. La ville de Vienne, en Autriche, compte plus de 420 000 logements sociaux et communautaires où habitent 60 % de la population. À Montréal, une ville de taille semblable, on en compte 61 654, dont 34 % sont des HLM. Vous écoutez Bruno Marchand parle d'itinérance, un texte de Iseu Picard paru dans le magazine L'Itinéraire le 15 avril 2023. D'accord, mais concrètement, que devraient faire les municipalités? Une fois qu'on a pris cet engagement politique de s'occuper des sans-abri, après, le reste suit. La question des coûts pour loger les sans-abri, c'est un faux problème. Je pose la question, combien ça coûte présentement les appels à la police, les services d'ambulanciers, les coûts hospitaliers, la sécurité, les problèmes de santé, les refuges? C'est sûrement plus cher ou le même investissement qu'un appartement. Et puis, une fois que tu as un appartement, tu peux être suivi, soutenu. Tu peux te mettre en mouvement, te prendre en main. Nous, on a proposé 7 mesures au ministre de l'Habitation pour endiguer la pénurie de logements abordables. Ça ne suppose pas juste d'en créer, ça suppose d'arrêter d'en perdre et aussi de changer la loi concernant les unités d'habitation accessoires. C'est-à-dire que les gens pourraient transformer un garage en studio pour loger un proche, par exemple, pour se créer une source de revenus additionnels. Ce n'est pas la panacée, Mais il faut une multitude de solutions pour pallier la crise actuelle, dont celle de protéger des espaces déjà construits qui pourraient être utilisés pour les logements abordables.
Pourquoi êtes-vous entré en politique?
J'ai toujours eu une relation amour-haine avec la politique. Amour, parce que je crois qu'elle a des leviers pour changer les choses. Haine, parce que ce n'est pas si facile que ça. Certains le font pour leur égo. Pour moi, la vie n'a de sens que si je contribue à quelque chose de plus grand que moi, à une communauté. Je pourrais travailler dans d'autres domaines. Je pourrais m'épanouir ailleurs. Mais les gens me reconnaissent du leadership, une capacité à mobiliser. Il faut que ça serve à quelque chose de bien. Et puis, mon parcours m'a fait réaliser que faire de la politique municipale, c'est un lieu extraordinaire pour changer les choses. Pourquoi un sommet sur l'itinérance? Parce qu'on est plus fort en groupe. Parce qu'on le vit tous. Quand des villes comme Granby sont aux prises avec des campements, tu fais quoi? Quand la mairesse de Val-d'Or travaille avec une itinérance autochtone, quand Drummondville doit aussi composer avec de plus en plus de sans-abri, ils regardent dans leur coffre à solution et il n'y a à peu près rien. Il y a la police. Mais la police, tu ne la contrôles pas. Elle est autonome et dans certaines villes ou villages, c'est la Sûreté du Québec. Si tu as de bons liens avec les CIUS, tu peux faire des choses intéressantes. Mais si tu n'as pas de lien, c'est autre chose. Parce que dans certaines villes, la relation avec le CIUS peut être extraordinaire ou complètement pourrie. Lorsqu'ils arrivent à faire des projets ensemble, c'est qu'ils ne se préoccupent pas seulement de leur mission propre, ils apportent de vraies solutions. Les ressources ne seront jamais illimitées, l'itinérance devrait être une priorité. Ça suppose du logement, de l'accompagnement, des mesures comme des travailleurs de rue, des groupes communautaires qui sont capables d'accueillir, qui travaillent pour les aider à trouver leur voie, de trouver de la formation, d'en faire des citoyens actifs, heureux. Quand le rapport sur les enfants de la DPJ est sorti, on a appris que sur 2000 adultes qui sortent chaque année, 666 risquent de devenir sans-abri. Comment se fait-il que personne ne s'indigne? Je ne comprends pas. En somme, on les connaît déjà, les coûts de l'itinérance, l'alcoolisme, la dépendance et de nombreux problèmes de santé. Un individu qui contribue à quelque chose qui a du sens, déjà la communauté est plus forte, et ce, avant même qu'il travaille ou paie des taxes. Celui-ci peut travailler quelques heures par semaine, s'épanouir s'il fait quelque chose qui a du sens pour lui. L'être humain cherche à donner du sens à quelque chose qui est plus grand que lui, à contribuer. Moi, je refuse de dire que ce n'est pas possible pour tous de trouver cela. Au rendez-vous de l'UMQ sur l'itinérance en septembre, on va en parler. On va remettre ça à l'agenda. Tous les maires vont être là. Et on ne peut pas se permettre d'attendre des années pour que ça change. C'était Bruno Marchand parle d'itinérance, un texte de Iseux Picard, paru dans le magazine L'Itinéraire le 15 avril 2023.
« Comment déjouer la réduflation », un texte de Emmanuel Grill, paru dans Bel Âge, plus, mai-juin 2023. Votre paquet de biscuits favoris vous semble plus léger qu'à l'habitude? Il ne s'agit pas d'une illusion, c'est probablement dû à l'actuelle vague de « moins pour le même prix ». Les consommateurs l'ont constaté, le panier d'épicerie coûte de plus en plus cher. Et les visites au supermarché ont pris l'allure d'une véritable chasse aux aubaines pour tenter de dénicher les meilleurs rabais. Pour expliquer cette flambée, les producteurs et transformateurs invoquent l'augmentation du coût des ingrédients, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, voire les changements climatiques et la pénurie de main-d'œuvre. Plutôt que de faire grimper leurs prix, des manufacturiers ont toutefois adopté une stratégie commerciale différente, la réduflation. Ce terme, calqué sur l'anglais « shrinkflation », mot-valise composé de « shrink » et « inflation », combine les mots « réduction » et « inflation ». Le grand dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française la définit comme le sous-dimensionnement d'un bien de consommation courante par son fabricant sans diminution du prix de vente. Autrement dit, les acheteurs en ont moins pour leur argent, car pour maintenir leur marge bénéficiaire, les manufacturiers réduisent le poids, le format ou le volume du produit en le vendant au même prix. Pourquoi ne pas tout simplement augmenter le coût? Parce qu'il est prouvé que les consommateurs sont davantage sensibles à une hausse de prix qu'à une diminution de format. Heureusement, la clientèle est moins dupe des tactiques des fabricants. À cet égard, un sondage réalisé en 2021 pour le compte du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie révélait que près de 3 Canadiens sur 4 avaient constaté que le poids de certains produits avait été réduit alors que leur prix était demeuré inchangé ou avait augmenté. Il y a toutefois moyen de déjouer les pièges de la réduflation en suivant les conseils suggérés dans cet article. Ni vu ni connu. Bien qu'elle ne soit pas illégale, cette pratique provoque la grogne des consommateurs qui ont l'impression qu'on se moque d'eux. Ils n'ont pas tort. D'ailleurs, rares sont les compagnies qui se vantent d'avoir recours à une telle pratique. Hormis quelques exceptions, comme Ferrero, Nutella, et Mondelez International, Oreo, qui ont annoncé avoir réduit la taille de certains emballages, les manufacturiers se font plutôt discrets à ce sujet. Et pourtant, les exemples de réduflation se multiplient. Mentionnons les bouteilles de jus d'orange qui passent subitement de 1,65 litres à 1,5 litres, ou de 1,75 litres à 1,54 litres, ou encore les grands formats de yogourt qui ne contiennent plus que 650 grammes au lieu de 750 grammes. Signalons également les emballages de fromage qui ont fondu de 60 grammes pour passer à un contenant de 400 grammes et ceux de bacon qui ne contiennent plus que 500 grammes au lieu de 750 grammes. Quant aux sachets de craquelin et aux biscuits, ils ont étrangement maigri. Mais ce n'est pas tout. On trouve également moins de barres tendres, de sachets de gruau instantané ou de pâtes alimentaires dans la boîte de carton qui a pourtant conservé la même dimension qu'auparavant. Les articles de soins personnels et d'hygiène n'y échappent pas non plus, remarque Jacinthe Cloutier, professeure adjointe au département d'économie agroalimentaire et sciences de la consommation à l'Université Laval. Il peut y avoir moins de papier mouchoir dans une boîte ou de feuilles dans le rouleau de papier toilette, souligne-t-elle. Les crèmes hydratantes, shampoings, détergents à lessive et assouplisseurs subissent aussi une cure minceur. Des subterfuges créatifs. Si les fruits et les légumes frais, ainsi que la viande et les poissons non transformés, ne sont habituellement pas touchés par la réduflation, de nombreux produits emballés en font l'objet. Car c'est là que réside le nerf de la guerre, donner l'illusion que la quantité reste la même en utilisant toutes sortes de subterfuges. Sarah-Ève Levac, avocate et conseillère juridique à Options Consommateurs, en dénombre quelques-uns. Par exemple, les manufacturiers modifient la forme d'une bouteille pour la rendre plus large que haute, ou ils ajoutent des creux autour du goulot ou sous la base. Un gros bouchon crée également l'illusion que le contenant est plus imposant, note-t-elle. Chez certaines marques, les moules en plastique protégeant les biscuits dans leur emballage ont été modifiés afin d'en contenir moins. Et dans les sachets de croustilles, on insuffle de l'air pour laisser croire qu'il est tout aussi rempli qu'auparavant. Un couvercle ou un fond plus épais d'un grand pot de yogourt, des dentelures ou des bulles sous les bouteilles en plastique sont d'autres techniques pour réduire le contenu de quelques dizaines de grammes ou de millilitres. La forme du produit peut aussi être modifiée pour en diminuer la quantité, comme une tablette de chocolat comportant moins de carreaux ou présentant plus de renflements. Autre tactique souvent utilisée, celle de l'échantillon. Durant une période promotionnelle, le fabricant offre en cadeau un petit format de détergent ou de shampoing, par exemple, alors que le format original qui l'accompagne en contient moins que d'habitude. À l'achat suivant, il n'y a plus d'échantillon gratuit et on obtient donc moins de produits pour le même prix, signale l'avocate. Les consommateurs devrait aussi être attentif lorsqu'on fait la promotion d'un nouvel emballage plus pratique, plus écologique ou plus facile à manipuler. Dans ce cas, il y a fort à parier que si le prix est resté le même, la quantité, elle, a diminué. Vous écoutez « Comment déjouer la réduflation », un texte de Emmanuel Grill, paru dans Bel Âge Plus, mai-juin 2023. Aiguiser son flair. Pour éviter d'être le dindon de la farce en se rendant à l'épicerie, il y a plusieurs réflexes à cultiver. La meilleure méthode pour détecter la réduflation est de consulter le prix au poids ou au volume. En effet, le prix unitaire sur l'étiquette apposée sur le produit peut induire la clientèle en erreur, car il ne permet pas d'effectuer une véritable comparaison. Au Québec, les détaillants doivent obligatoirement indiquer les prix au poids ou au volume sur l'étiquette placée sur la tablette, précise Sarah-Ève Levac. Ces informations sont inscrites en petits caractères, mais elles valent leur pesant d'or. Grâce à elles, on peut savoir hors de tout doute si 100 ml de sauce tomate de la marque X coûtent moins cher que ceux de la marque Y, et ce, même si les emballages diffèrent. Rappelons toutefois que ces précisions ne sont fournies que sur l'étiquetage en magasin et qu'elles n'apparaissent pas dans les circulaires. Jacinthe Cloutier recommande également, lorsque c'est possible, d'opter pour des produits en vrac. Pas d'emballage, donc pas de réduflation. Et du même coup, on évite le gaspillage. Choisir des marques génériques, souvent moins chères, est aussi une solution, dit-elle. Même si la tendance a récemment commencé à changer, les marques maison ont habituellement peu recours aux tactiques de réduflation. Les applications qui comparent les produits au volume ou au poids aident aussi à faire des choix judicieux. Tout comme photographier les produits qu'on achète souvent, l'image fournit par la suite un point de comparaison utile si on a l'impression que l'emballage contient une plus petite quantité. Selon Sarah Evlevac, on gagne aussi à se tenir au courant de la hausse des prix de l'alimentation. En sachant, par exemple, que les prix des produits de boulangerie ont grimpé de 13 % mais que le pain tranché qu'on achète, lui, n'a pas augmenté, ça devrait nous inciter à vérifier si le poids mentionné sur le sac est toujours le même. Ces nouvelles habitudes exigent bien sûr de la discipline, de l'organisation, et elles rendent nos achats à l'épicerie plus complexes. Il faut rester à l'affût, dresser des listes de prix et mettre en place des points de repère, mais le jeu en vaut assurément la chandelle. C'était « Comment déjouer la réduflation », un texte de Emmanuel Grill, paru dans Bel Âge Plus, mai-juin 2023.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.vicevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche à la lecture, Anne Hébert à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.